Et bonjour Martine Vallon, présidente de France Nature Environnement 04.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous êtes venue accompagnée de deux jeunes filles du service civique. Il s'agit de Cécile Chevalier, bonjour. Et de Magali Henry, bonjour.
Bonjour.
Alors, toutes deux, vous vous intéressez de près, donc, l'une à la gestion de la biodiversité, c'est donc Magali, et Cécile
à la géographie et à l'aménagement en montagne.
Voilà. Et alors, ben, je vous laisse pour cette émission, donc, qui va traiter de la biodiversité et des espèces invasives, c'est ça Martine?
Oui, c'est cela. Donc, nous préparons en ce moment la journée de fête de la nature et on a prévu de parler de biodiversité et d'espèces invasives. Donc, Cécile et Magali, qui sont chez nous depuis plusieurs mois en service civique, ont travaillé plus particulièrement sur ce sujet. Magali, sur l'organisation de cette journée prochaine, dont elle parlera, et puis Cécile qui va commencer là l'émission en abordant l'axe plus général, la biodiversité, qu'est-ce que c'est?
Alors effectivement, on peut peut-être commencer par définir ce que c'est que la biodiversité. Donc on entend que c'est la diversité des formes de vie sur Terre. Donc ça comprend la diversité des milieux, des habitats, des espèces, des gènes au sein des espèces, et puis des populations et des individus. Donc cette diversité, en fait, elle contribue à l'équilibre du fonctionnement de la vie sur Terre. Donc c'est pour ça qu'elle est importante. C'est comme si chaque espèce avait un rôle à jouer. Et donc une espèce qui disparaît, c'est un rôle de moins qui est réalisé, quoi, pour le fonctionnement de la vie. Et donc voilà...
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de biodiversité à l'heure actuelle sans vraiment saisir exactement ce que ça signifie, ce que ça implique, et notamment ce que ça implique sur l'attention qu'on doit porter au vivant dans toutes ses caractéristiques et dans tous ses aspects, et l'importance en fait de la relation entre les espèces, entre tous les écosystèmes aussi, et du fait que l'impact humain va venir interférer là-dedans. Et que tout ce que nous pouvons faire, la façon dont nous agissons et la façon dont parfois nous vivons ou nous choisissons certaines activités, va impacter les milieux, va impacter et va avoir une conséquence sur cette biodiversité. Alors, peut-être l'exemple de l'agriculture.
Oui, ben, par exemple, effectivement, on peut parler de l'agriculture dans le sens où dans les années 50-70, on a développé une agriculture productiviste et monospécifique. Et en fait, là, on est allé peut-être à l'encontre de justement cette biodiversité, puisqu'on a cherché à développer une seule espèce sur une surface de terre donnée. Donc, on a développé sur des grandes surfaces. Donc, on appelle ça, par exemple, les open fields. Et donc, là, on est allé complètement à l'encontre de cette biodiversité. Et on a donc détruit des habitats, par exemple. On a développé une seule espèce de céréales, par exemple. Et donc là, la diversité des espèces ne s'y est pas retrouvée dans cette monospécificité, on va dire. Et donc ça a eu un impact sur, par exemple, les insectes en utilisant des insecticides. Et donc derrière ça, sur les oiseaux, puisque les oiseaux se nourrissent d'insectes, ça a affecté les oiseaux. Donc on voit il y a des études qui montrent qu'il y a des espèces d'oiseaux, des milieux ruraux qui disparaissent assez brutalement, on va dire. C'est assez flagrant. Et donc là, on voit avec l'agriculture qu'on a développée, mais qui est en train de changer maintenant, qu'on a quand même impacté assez fortement la biodiversité.
Je pense qu'on pourrait peut-être se souvenir de cette grande campagne qui a eu lieu en Chine sous Mao Tse-tung, qui s'appelait donc la campagne des quatre nuisibles dans les années 58-60. Ça faisait partie de ce qui avait été appelé le grand bond en avant. Et donc ça a été une campagne contre ces quatre nuisibles étant les rats, les mouches, les moustiques et les moineaux. Et donc il y avait eu tout un tas d'actions pour éradiquer ces bestioles. Et notamment les Chinois qui tapaient sur les casseroles pour empêcher les oiseaux de se poser, les moineaux qui mouraient d'épuisement parce que partout dans les campagnes, on les empêchait de se poser. Et donc cette grande campagne a amené donc la disparition des moineaux, l'augmentation du coût des insectes ravageurs puisqu'ils n'étaient plus mangés par les oiseaux. Et ces insectes ont eu un impact sur les récoltes qui ont diminué. Et ça s'est traduit par une immense famine où on dit que 30 millions de Chinois sont morts de faim. Donc vraiment, on voit à certains moments comment les choix qui ont été faits entraînent des grosses conséquences. Peut-être aborder les différentes causes de disparition des insectes, des espèces plutôt.
Effectivement, on a parlé de l'agriculture, mais en fait, ce n'est pas la seule raison de disparition de ces espèces. Elles sont plutôt liées aux activités humaines quand même, la disparition des espèces, notamment due à l'exploitation de la ressource en poissons.
On pêche trop dans les périodes...
Alors, on pêche trop, mais en plus, on pêche sans vraiment faire le tri de ce qu'on pêche. Donc, on ramasse un peu tout avec des énormes filets. Et puis, il y a peut-être des poissons dans ces filets qui étaient petits ou qui étaient en pleine période de reproduction ou qui étaient peut-être menacés déjà d'avant. Et on ne fait pas trop attention à quels poissons on pêche et à comment on les pêche. On en a parlé avec la conversion des terrains pour l'agriculture, où il y a une perte d'habitat parce qu'on a enlevé les bocages, donc les haies, les lieux de végétation entre les parcelles agricoles, par exemple. Donc là où il y avait des oiseaux, des insectes, plein de petits mammifères, tout ça. Il y a aussi l'augmentation de la pollution par l'azote, les phosphores et les sulfures, c'est toujours lié à l'agriculture. Il y a la diffusion des espèces... des espèces exotiques invasives, donc on en parlera tout à l'heure avec Magali, l'impact que ça a encore d'ailleurs sur la biodiversité, et puis aussi le changement climatique. Donc changement climatique, c'est une hausse des températures où il y a un dérèglement climatique qui fait que les espèces doivent s'adapter, donc autant que nous en fait. Et moi j'ai lu quelques articles qui disent que les espèces sont en mesure de s'adapter. Donc il y a des exemples de tortues qui vont pondre des œufs dans des sables plus frais, ou des éléphants qui vont parcourir, qui vont prendre d'autres chemins pour trouver de l'eau. Mais par contre, ces espèces sont capables de s'adapter, mais par contre à condition que nous, êtres humains, on ne leur mette pas des bâtons dans les roues en construisant des routes ou en aménageant les plages pour faire venir des touristes ou tout ça. Donc les espèces sont capables de s'adapter, mais à condition qu'on leur laisse la capacité de le faire.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors que les espèces puissent s'adapter.
Oui, autant que...
Est-ce que l'homme peut s'adapter aussi
On dit que l'être humain est quand même celui qui s'adapte au plus de conditions différentes. Quand on voit les habitats depuis les glaces du pôle Nord jusqu'aux chaleurs africaines, c'est vrai que l'être humain a une capacité d'adaptation assez forte. Ceci étant, dans une fourchette quand même assez raisonnable. Et en effet, il est loin d'avoir les possibilités que peuvent avoir certains insectes ou bien certains autres animaux en termes d'adaptation. Alors, c'est vrai aussi que sur ces questions-là, on voit... Bon, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de cette biodiversité. Le gouvernement, donc Nicolas Hulot, a l'objectif de mettre en place d'ici l'été prochain un plan pour la biodiversité. En 2019, sur Marseille, se tiendra le G7 environnement, le congrès... sur Marseille, ce sera en 2020, le congrès mondial de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Donc on est vraiment sur ce souci de bien voir ce qu'on peut faire pour éviter cette évolution négative. Alors, je pense que on va envisager la question des espèces invasives, parce que, en effet, biodiversité signifie multiplicité des espèces, qu'elles soient faune, flore. À certains moments, il y a une concurrence qui se fait jour entre les différentes espèces. Et là se pose la question de comment réagir. Par exemple, en 1859, en Australie, c'était un Anglais, Thomas Austin, qui était un chasseur et qui s'était installé en Australie, trouvait qu'il n'avait pas le gibier qui lui plaisait, sans doute. Et donc, il s'est mis dans la tête d'importer des lapins. Et donc, il a importé en Australie du Sud 12 couples de lapins. En à peu près 50 ans, 50 ans plus tard, il y avait 600 millions de lapins qui envahissaient 60% du territoire australien. Et on est toujours avec une quantité aujourd'hui de lapins très importante. Bon, ça a entraîné, donc ces 600 millions de lapins qui mangeaient toute l'herbe ont entraîné une forme de désertification, ont entraîné la diminution des espèces locales, des petits marsupiaux par exemple, puisqu'il y avait concurrence pour la nourriture. Et donc, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin bon, etc. Donc il y a eu des clôtures, 2000 à 3000 kilomètres de clôtures qui ont été mises pour éviter la propagation des lapins. Ça n'a pas suffi, ils sont passés, enfin bref. On a ensuite essayé d'introduire des renards pour les faire disparaître, ça n'a pas suffi non plus. Les renards se sont mis à manger les marsupiaux, donc effectivement, ça a été encore une aggravation de la situation. Et puis, on a introduit la myxomatose, mais le vecteur de diffusion étant le moustique, l'Australie a un climat trop sec, donc ça n'a pas bien fonctionné non plus. Puis, ça a été la puce espagnole pour essayer toujours d'éradiquer ces lapins. Et en 95, est arrivée une fièvre hémorragique, alors on ne sait pas trop si elle a été volontairement introduite ou pas, bref, qui a entraîné une disparition assez importante. Et aujourd'hui, on travaille sur, et donc ont été ensuite amenés des virus immunocontraceptifs, donc pour éviter la reproduction des lapins. Donc voilà. Et il en reste quand même un tiers de ces 600 millions. Hein, la situation. Donc on peut voir là comment les choses peuvent évoluer. Et que faire donc sur cette question espèce invasive quand on a détruit un équilibre, quand on a amené, et aujourd'hui avec la mondialisation, on amène effectivement sur l'ensemble de la planète des tas d'espèces différentes dans des lieux qui n'étaient pas les leurs au départ. Et voilà, que fait-on ensuite pour ça? Donc c'est la question qu'on va traiter dans la deuxième partie avec Magali.
On fait une pause musicale. Et donc vous avez choisi de nous faire écouter une chanson de Lassa. On l'écoute tout de suite. Thank you. Voilà, c'était Lassa qui nous chantait donc cette magnifique chanson. Vous êtes dans l'émission Un moment pour la Terre et le sujet c'est la biodiversité et les invasions.
Oui,
les espèces invasives, voilà.
Donc on a choisi ce thème puisque cette année, la fête de la nature a pour thème « Voir l'invisible ». Donc voir l'invisible, il y a les axes, le tout petit, mais aussi pour nous, ça a été regarder comme voir ce qui ne nous semble pas évident, c'est-à-dire que ces espèces exotiques, invasives, ne sont pas reconnues comme telles forcément par tout le monde. C'est-à-dire, vous avez par exemple le buddleia, qui est cet arbre au grappe de fleurs lilas qui a été introduit et qui s'est dispersé un peu partout, qu'on voit maintenant. J'ai même vu ce matin en arrivant à la radio qu'il y en avait juste en face dans les gravats, là, juste à côté où il y a un peu des friches. Et donc ces espèces-là, effectivement, on ne les identifie pas comme étant une variété d'espèces invasives. Donc, Magali, qui organise cette journée qui sera axée sur la renouée du Japon, une autre espèce exotique invasive, va nous en dire un petit peu plus maintenant là-dessus.
Oui, donc je vais commencer déjà par définir un peu ce que c'est qu'une espèce exotique envahissante ou espèce invasive. Donc déjà, une espèce exotique, c'est une espèce qui vient pas d'ici. Qui a été introduite par l'homme, certaines pour des raisons ornementales, donc ça a été fait exprès, comme par exemple le buddleia dont Martine parlait tout à l'heure, ou aussi la basamine de l'Himalaya, qui sont donc des plantes qui ont des jolies fleurs. Et c'est pour ça qu'elles ont été introduites, sans qu'on réalise les conséquences que ça pourrait avoir après. Il y a aussi des espèces qui sont introduites, mais involontairement, comme par exemple le moustique-tigre. Et toutes ces introductions, elles ont beaucoup augmenté avec les échanges commerciaux à partir du XVIIe siècle. Mais toutes les espèces exotiques ne deviennent pas forcément envahissantes. On dit qu'une espèce sur 1000 à peu près devient envahissante. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 fois 10. Donc sur 1000 espèces introduites, il va y en avoir à peu près 100 qui vont plus ou moins s'adapter et réussir un peu à se reproduire dans le milieu. Mais ça va être, elles vont pas faire des populations pérennes. Il faudra qu'il y ait des introductions encore à chaque fois pour que la population se maintienne. Parmi ces 100, il y en a une dizaine qui vont vraiment s'acclimater, bien se reproduire et vraiment être adaptées aux conditions du nouveau milieu dans lequel elles ont été introduites. Et parmi ces 10, seulement une va devenir avec un caractère envahissant et va se disperser et coloniser de nouveaux habitats. Donc c'est pour ça qu'on dit que la règle des 3 fois 10, environ une espèce sur 1000 introduites devient exotique envahissante. Donc sous le nom espèce exotique envahissante, il y a cette notion d'espèce qui cause des problèmes pour la biodiversité. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une des premières causes de perte de biodiversité mondialement. Cette menace sur la biodiversité, elle se fait soit par compétition, parce qu'elles utilisent les mêmes ressources que les espèces locales, soit par prédation, parce qu'elles s'attaquent à des espèces qui ne connaissaient pas ce nouveau prédateur et qui ne savent pas se défendre contre, ou alors par hybridation avec des espèces locales un petit peu proches, et elles s'hybrident, et du coup la population locale génétiquement n'est plus la même. Alors ces espèces, donc on l'a vu, elles causent des problèmes pour la biodiversité, mais pas que. Elles peuvent aussi causer des problèmes sur la santé, par exemple l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui cause des allergies avec son pollen. Il y a environ 10% de la population qui est allergique à cette plante. Elles peuvent aussi causer des problèmes de sécurité, par exemple en cachant des panneaux de signalisation routière. Et vu qu'elles sont envahissantes, c'est vraiment très dur de s'en débarrasser, donc ça peut vraiment être problématique. Ou alors d'usage, si un plan d'eau est envahi par une plante, comme par exemple les jussies, qui sont aussi des espèces exotiques envahissantes. Et si ce plan d'eau est utilisé à des fins touristiques, par exemple, il peut ne plus être utilisable parce que vraiment trop envahi. Et donc tout ça, ça a un coût qui a été estimé à environ 12 milliards d'euros par an en Europe. Alors c'est difficile de vraiment estimer le coût que ça représente. Par exemple, les dommages à la biodiversité ne sont pas comptabilisés dans ce coût. Donc les dommages sur les services écosystémiques que rend la biodiversité ne sont pas comptabilisés. Donc c'est une estimation, c'est dur d'avoir un chiffre vraiment précis de combien ça coûte, mais ça a quand même un certain coût.
Je pense qu'une partie du coût doit être liée effectivement aux efforts qu'on peut faire et à ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'éradiquer ces espèces. C'est vrai qu'on peut aller regarder un peu sur YouTube, par exemple, sur l'histoire de la renouée du Japon. On voit des petites vidéos qui montrent l'énormité de cette plante, enfin sa capacité à grandir et à prendre de l'espace et apparemment la difficulté. Alors c'est, je crois, en Savoie d'ailleurs où le petit clip était tourné et où effectivement il faut couper, recouper, enfin faire passer des gyrobroyeurs pour essayer de maintenir l'espace et la plante dans un état acceptable.
Donc c'est pas toujours sans conséquence de faire venir des plantes exotiques. On n'imagine pas les conséquences.
Comment ça peut, quand on achète une plante en pot à la jardinerie et qui vient de l'autre bout de la terre.
Finalement, si ça pousse ailleurs, ça peut... c'est que ça doit rester là-bas. Alors...
On pourra se poser la question. Ouais, c'est une
cas,
question qui peut se
poser. En tout cas, il faut y réfléchir sérieusement avant d'importer.
Oui, et c'est pour ça qu'on met en place des réglementations, justement. Alors, il n'y a pas de réglementation sur toutes les espèces exotiques potentiellement envahissantes, mais ça a commencé à être pris en compte relativement tôt. Dès 1971, il y a une convention qui s'appelle la Convention de Ramsar sur les zones humides. Ils commencent à dire que ces espèces sont potentiellement dangereuses pour les zones humides. Et après, plus récemment, au niveau européen, en 2014, il y a eu un règlement qui parle de ces espèces exotiques envahissantes, de la faune et de la flore. Et une liste associée à ce règlement est sortie en 2016. Il y a eu des ajouts en 2017, et c'est prévu dans le règlement européen d'en faire régulièrement. Et à l'heure actuelle, il y a à peu près une cinquantaine d'espèces exotiques envahissantes sur cette liste européenne, et donc avec des réglementations par rapport à ces espèces. Au niveau national, pour décliner ce règlement, il y a une stratégie qui est sortie en 2017 aussi, qui donc veut décliner ce règlement au niveau national. Et toutes ces stratégies, ces règlements sont beaucoup axés sur la prévention, parce qu'une fois que l'espèce est installée, c'est vraiment compliqué, voire pour certaines quasiment impossible de s'en débarrasser. Donc c'est des espèces sur lesquelles il faut réagir tôt, et c'est pour ça qu'ils axent ces règlements beaucoup sur la prévention.
Alors, dans certains cas aussi, parce que justement, on peut se poser la question de savoir, comment mettre. Alors, faut-il mettre des barrières aujourd'hui, avec la mondialisation, les échanges sont multiples et permanents. On peut se dire aussi que, par exemple, si nous connaissons au niveau de la flore des variétés multiples, c'est grâce, dans certains cas, aux voyageurs qui ont ramené des collections, et on peut voir que ce soit le Jardin des Plantes à Paris, que ce soit à Montpellier, il y a aussi un jardin magnifique avec des collections d'arbres, de plantes qu'on ne connaîtrait pas, qu'on n'aurait jamais l'occasion de voir si il n'y avait pas eu justement ces gens qui les ont ramenés et ces échanges qui se font. Donc on peut se dire aussi que... Comment essayer de conserver peut-être un équilibre par rapport à ces questions-là, parce que à certains moments il peut y avoir l'idée que tout peut être envahissant et à qui va-t-on donner le droit d'habiter chez nous, et là je parlerai dans un sens large aussi, puisque on peut se sentir envahi par d'autres populations, donc là aussi la question peut se poser sur comment imaginer le monde futur et comment conserver une harmonie. Dans certains cas, les espèces invasives disparaissent ou finissent par évoluer. Il y a un calme qui se fait. Hein, donc, c'est sur Monaco, c'est ça ?
Oui, il y avait par exemple le cas d'une algue, Colerpa toxifolia, qui s'est échappée de l'aquarium de Monaco, en Méditerranée. Et qui a beaucoup envahi et qui a causé des problèmes sur la flore méditerranéenne. Et elle s'est mise à régresser, et on ne sait pas exactement pourquoi. Alors c'est peut-être lié au fait, entre autres, que souvent les espèces exotiques envahissantes font beaucoup de la reproduction végétative, donc en quelque sorte des clones. Donc c'est des populations qui génétiquement sont pauvres, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup de diversité génétique, et du coup c'est plus compliqué pour elle de s'adapter à des changements. Donc c'est sûr que c'est pas la seule raison pour laquelle les populations de cette algue ont commencé à régresser, mais ça peut faire partie des raisons pour lesquelles il y en a moins. Donc c'est vrai que des fois il suffit juste d'attendre et ça se résout un peu par soi-même, mais on peut pas nier qu'il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes qui causent quand même des problèmes.
Alors, c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui favorise ces espèces-là par rapport à d'autres. Et donc, je crois que là où l'hypothèse pourrait être placée, c'est effectivement dans notre impact sur l'écosystème en général. Je crois que, par exemple, si on augmente la pollution dans certaines rivières, on le voit aujourd'hui, on a des espèces locales en termes de poissons ou la fabuleuse écrevisse à pattes blanches que nos amis pêcheurs protègent tant qu'ils peuvent. Je crois que la pollution de la rivière a entraîné un affaiblissement de ces espèces-là. Comme on pourrait se dire que la pollution aérienne aussi peut avoir une incidence sur le développement du chancre du platane, par exemple, sur l'affaiblissement, parce qu'en fait, un organisme affaibli, et affaibli par les diverses pollutions, est fragilisé forcément face à ce qui arrive. Et donc une espèce affaiblie peut aussi du coup laisser la place à une autre espèce qui va, elle, être plus solide, plus résiliente et qui va finir par effectivement occuper tout le territoire. Et donc une des réponses donc, qui est essayer de maîtriser l'évolution de ces espèces invasives, c'est une chose, mais peut-être aussi pourrait-on se poser la question de rétablir une forme d'équilibre sain du milieu, de façon à ce que, en effet, les variétés locales trouvent les bonnes conditions pour pouvoir se maintenir. Alors, je ne sais pas si... oui, Magali, tu as peut-être encore quelque chose à rajouter, ou bien Cécile, avant qu'on passe. Alors, peut-être sur l'organisation de la journée, puisque, voilà, bon, parlons du concret, de ce que nous allons faire dans ce
alors,
cadre-là.
Alors, quelle journée, où, quand, comment?
Alors, donc, on a décidé d'organiser le mercredi 23 mai à Volonne. Une journée, donc c'est dans le cadre de la fête de la nature, et donc la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, va organiser une exposition et des activités du 23 au 27 mai, et on s'insère là-dedans la journée du 23 mai, avec deux fois une heure le matin et l'après-midi pour accueillir des enfants du centre de loisirs et les sensibiliser, les informer sur ce que c'est les espèces exotiques envahissantes, et plus précisément les renouées du Japon. Donc, parce qu'il y a des renouées du Japon à Volonne. Les renouées du Japon, donc, c'est des espèces exotiques envahissantes qui viennent d'Asie orientale, qui ont été introduites au début du 19e siècle comme plantes ornementales et qui maintenant sont devenues envahissantes en France et qui peuvent causer des problèmes sur la biodiversité vu qu'elles forment des populations denses et monospécifiques et donc d'autres espèces ne peuvent pas pousser là où elles s'implantent. Donc on veut sensibiliser les enfants à ça, En leur expliquant ce que c'est, puis en organisant un petit atelier d'arrachage pour qu'ils voient comment ça peut se passer. Et donc voilà, ce sera ce qu'on va faire avec les enfants. Et on a aussi prévu donc une deuxième partie d'une heure avec le grand public pour les sensibiliser toujours à ces espèces et quelle gestion pour ces espèces dans les communes alpines.
Alors, avant de vous parler des différentes autres activités envisagées dans le mois à venir, je ne sais pas, peut-être sur cette question-là, effectivement, lorsque l'espèce devient véritablement trop impactante, trop envahissante, ou bien qu'elle pose de grands problèmes, il y a cette possibilité donc d'essayer d'éradiquer ou de maintenir, disons-nous. Dans certains cas, peut-être pourrait-on regarder la situation de façon un peu différente aussi. Très souvent, la nature apporte la solution d'un problème et apporte à travers sa réponse un élément nouveau qui va nous aider. Alors, c'est peut-être très optimiste ou très positif de regarder les choses de cette façon-là, mais on se rend compte qu'il y a dans ces espèces-là une énergie et une force de vie très très grande, dans certains cas aussi, elles ont des potentiels thérapeutiques. Sur l'ambroisie, on a cet aspect, alors, ou peut-être qu'elles arrivent en alerte. L'ambroisie s'attaque aux gens sur le plan de la respiration, de l'asthme, etc. Et donc c'est vrai que c'est une forme d'allergie qui se développe. C'est une forme d'allergie aujourd'hui qui répond à un air ambiant extrêmement pollué. Et peut-être qu'on a là le focus qui est mis, le doigt qui est mis sur une question qu'on peut se poser. Comment éviter que l'être humain, aujourd'hui, ait tous ces problèmes-là? Comment diminuer les pollutions? Peut-être que cela arrive pour venir nous dire « méfiez-vous, attention ». Dans certains autres cas, je crois qu'il y a peut-être des propriétés. J'avais remarqué une année où il y avait eu un apport dans mon jardin, un apport de cendres trop important. La seule chose qui a poussé à cet endroit-là, ça a été des soucis. Or, le souci, c'est calendula. Et calendula, c'est utilisé pour traiter les problèmes de peau, pour quand on se blesse, quand on se fait mal, etc. Et donc je me suis dit, peut-être qu'effectivement, il y a là, sur la couverture du sol, la peau de la terre, quelque chose qui a été blessé par un apport trop important de cendres. Et donc la seule plante qui pousse, c'est celle qui est la réparatrice de ces aspects-là. Voilà, je pense que dans certains cas, on pourrait essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça vient nous dire. Et aussi, qu'est-ce que ça vient nous dire de notre rapport à l'inconnu, de notre rapport à ce qui arrive chez nous et de comment pouvoir intégrer ces nouveaux événements à notre vie ou comment modifier parce que ça paraît insupportable.
Pour revenir à cette liste de réglementation, où est-ce qu'on la trouve et est-ce que c'est public?
Oui, alors sur le règlement européen, on peut le trouver sur Internet, sur le site de l'Union européenne, il me semble. On peut y avoir accès, tout le monde peut y avoir accès à ce règlement. Après, il y a vraiment beaucoup de réglementations. Il y a par exemple un arrêté national sur les jucies. Il y a des règlements au niveau international plus anciens, on va dire. Par exemple, la Convention sur la diversité biologique adoptée au sommet de la Terre à Rio en 1992, et dont un des objectifs spécifiques du plan stratégique 2011-2020, approuvé par la Convention, concerne ces espèces. Donc il y a vraiment pas mal de réglementations. Mais actuellement, c'est surtout au niveau européen. Au niveau européen, donc avec ce règlement dont j'ai parlé, qui est sorti en 2014 et la liste en 2016, qui est déclinée en France avec cette stratégie de 2017. La France va faire aussi une liste qui découle de ce règlement. Ils travaillent à faire une liste. En premier sur les dom-toms, parce que c'est des milieux plus sensibles aux exotiques envahissantes, parce que c'est par exemple notamment des milieux insulaires où il y a des espèces qui vivent là-bas depuis longtemps et qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des prédateurs, qui ont consacré leurs ressources à autre chose qu'à ces prédateurs. Et si un prédateur arrive, il peut faire beaucoup de dégâts parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir des prédateurs. Donc pour l'instant, la France se focalise surtout pour une liste sur les dom-toms et à terme, un jour, une liste sur la métropole.
Merci. Il reste donc, quelques minutes.
Quelques minutes, mais juste peut-être donc pour rappeler les dates dans les jours à venir. Donc bien sûr, donc ce 23 mai, fête de la nature avec l'atelier Renoué sur Volonne. Vous pouvez retrouver les lieux, etc. sur notre site. Nous avons ensuite samedi 26 mai une balade sur le Mardaric à partir de Notre-Dame-du-Bourg, donc toujours dans le cadre de la fête de la nature. C'est organisé avec les archives communales de Digne et c'est une balade pour redécouvrir ce cours d'eau qui est visible encore un petit peu mais qui est quasiment totalement recouvert aujourd'hui. Donc c'est la rivière invisible.
Donc ça, c'est le 26 mai.
C'est le 26 mai et le rendez-vous est à 16h devant Notre-Dame-du-Bourg, sur le parking. Mm-hmm. On nous fera un voyage dans le temps avec les anciennes photos de la ville de Digne pour voir le Mardaric d'avant, pour parler de l'équilibre entre urbanisation et protection des inondations et préservation des milieux naturels. Et avec le cours du Mardaric retracé jusqu'à sa confluence avec la Bléone. Ce sera fait, donc ça c'est dans le cadre de notre contrat de rivière Bléone. Et ensuite, le mardi 5 juin, la journée mondiale de l'environnement, à 19h en salle des fêtes de Malmoisson, une conférence débat « Forêt vivante, forêt vivable » avec Alain Persuit, qui est un écologue forestier, et l'auteur du livre « Nos forêts en danger ». Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler le mois prochain, puisqu'il s'agit du 5 juin, donc nous aurons une émission juste avant. Et ce sera sur les services écosystémiques des forêts.
Salle des fêtes de ?
C'est salle des fêtes de Malmoisson.
Malmoisson.
À 19h.
Voilà.
À peu près tout le programme.
Ça y est, on a tout. Merci. Peut-être
donc,
Donc on retrouve toutes les informations du programme sur France Nature Environnement.
Oui.
04. Et.
Sur notre site, tous les liens pour creuser la question biodiversité et espèces exotiques diverses. Et puis, toutes nos activités qui seront aussi notées.
Vous avez quelque chose à rajouter, Cécile et Magali ?
Non, pas spécialement, mais merci.
Merci à vous donc d'être venus dans notre studio et puis à bientôt. Au revoir.
Merci.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
La terre, il y a des cloportes qui envahissent toute leur maison. Ils essayent de les tuer.
Ah bon ?
Ouais.
Toc, 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 toc. C'est la cohorte, les cloportes en légion, en escorte. C'est la cohorte, les cloportes en quelque sorte. Mais qui toque à ma porte ? Assez-vous les cloportes, que le diable vous emporte. Mais qui toque à ma porte, assez-vous les cloportes, surtout que personne ne sorte. Toc, 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 c'est la cohorte, les cloportes en légion, en escorte. C'est la cohorte, des cloportes en quelque sorte. Ils ont tous la bougeotte, ils grignotent tes biscottes, tes carottes, ta picoque. Ils ont tous la bougeotte, ils grignotent tes biscottes, et puis enfin ils te croquent. Toc, toc, toc. Tes bottes, ta chemise, ta culotte.